et à tous. Heureux de vous voir, de partager avec vous ces moments-là. Toujours avec anxiété. Je disais en entrant ici que j'étais mal à l'aise parce que je ne me sentais pas du tout légitime à prendre la parole à Yann. Et Yann m'a répondu très justement, mais t'inquiète pas, personne n'est légitime à le faire. Donc, vas-y. Merci pour cet encouragement intelligent. Je vais parler plus fort pour mes frères et sœurs et lentement articulé. J'ai bien compris. Alors, aujourd'hui, j'espère ne vous choquer, non. Je sais que je ne vous choquerai pas, mais j'espère vous surprendre positivement. Parce que le thème de ma prédication m'est arrivé très tôt ce matin, après mille hésitations. Et si je me permets de faire ce petit préambule, c'est pas pour me plaindre, c'est simplement pour dire que du coup c'est un peu spécial, mais c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous. Et ça va commencer, je vais parler de Joe Dassin. Voilà. Joe Dassin, c'est un grand chanteur français, l'été indien, enfin c'était un chanteur français, etc. Voilà, et on va donc commencer par écouter une chanson de Joe Dassin. Alors il n'y a rien de... Elle n'est pas... Voilà, je ne désacralise pas cet endroit, ni ce que je fais, mais c'est important d'écouter cette chanson parce que nous sommes des êtres vivants dans une société. Alors je m'excuse pour les plus jeunes, ou pour les grands musiques classiques qui ne connaissent pas Joe Dassin, mais enfin, ça fait partie de notre patrimoine. Et en fait, c'est cette chanson qui m'est revenue ce matin lorsque j'étais en réflexion sur ce que je pouvais vous dire. Et j'aimerais qu'on parte de ce que dit cette chanson pour ensuite pouvoir aller un peu plus loin. Donc, c'est une chanson que vous connaissez tous, qui s'appelle « Et si tu n'existais pas ». Très belle chanson d'amour, donc c'est une chanson d'amour, ça fait toujours du bien d'entendre une chanson d'amour. Alors normalement, grâce à Alain, mon truc fonctionne. Voilà, je vais sur Deezer. Et je vous fais écouter cette chanson. En même temps, comme on peut rien, en ce moment on a du mal à pouvoir chanter, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc écoutez. Cette belle chanson d'amour d'un homme et une femme.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. J'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existe. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. le secret de la ville. Pourquoi? Simplement pour te créer et pour te regarder.
Ça vous a rappelé des souvenirs pour les plus anciens? Ah oui, pouf. Donc, jolie chanson qui parle en effet des gens qu'on se pose souvent la question, si tu n'existais pas, qu'est-ce que je pourrais faire sans toi? Cette chanson fait une différence entre les gens qu'on a perdus, qu'on a rencontrés et qu'on ne voit plus, et ceux qui ne sont jamais nés, ou ceux qui existent, mais qu'on ne connaît pas. Et la différence est énorme. Les gens qu'on a perdus, soit par un départ définitif vivant, soit par la mort, ils laissent un vide. Évidemment, vous le savez tous, un vide immense. Ils nous laissent en fait le creux de tout ce qu'ils nous ont apporté. Comme si on était sur une espèce de planche, que notre vie au début était une planche un peu molle, un peu malléable, et les personnes que l'on rencontre, avec qui on a une belle fréquentation, une belle histoire, ils creusent à l'intérieur de nous leurs traces, qui se remplit de tout ce qu'ils sont. Et puis quand ils partent, ils partent avec ce qu'ils avaient laissé, ils l'emmènent et ils nous laissent avec ce grand creux, dans notre cœur, dans notre corps. Et c'est pour ça qu'on dit que les vieilles personnes sont des gens cabossés, parce qu'on a plein de trous en fait, de tout ce que les gens avaient creusé en nous pour y mettre ce qu'ils étaient, et en repartant, ils sont partis avec, et on vit avec ce manque qu'on pourrait donc symboliser par un creux dans notre planche, dans notre corps, dans notre cœur. Ceux qui n'ont pas existé à nos yeux, soit parce qu'ils n'ont jamais vécu, soit parce qu'on ne les a pas rencontrés, ne laissent aucun creux en nous. Dommage, peut-être. Ils auraient pu nous apporter beaucoup de choses, certainement, mais comme nous ignorons quoi, le manque n'existe pas. Tous ceux qui ont eu un enfant ont pu vivre cette expérience. Quand l'enfant paraît, même au bout de 4 jours ou d'une semaine, enfin même pas au bout d'une heure, on se demande comment on a pu vivre sans cet enfant. C'est-à-dire ça paraît impossible, tant sa présence devient évidente, nécessaire, absolue. Idem, évidemment, avec les gens qui ont partagé une vie, une femme, un mari, enfin, a priori, c'est les gens qui nous sont les plus proches, et ceux de notre famille. On se dit, mais comment la vie d'avant a pu être sans cet être-là? Parce qu'on n'est jamais en manque de ce qui n'existe pas. On est en manque de ce que nous n'avons pas, mais qui existe. Alors, notre société est très forte pour créer ce manque, évidemment. C'est même le moteur de notre économie, la consommation, la croissance, tout part sur vous manquez de richesse, vous manquez de possibilité de voyager, vous manquez de gloire, vous manquez d'amour, votre famille n'est pas assez nombreuse, votre travail est ceci. Tout ça, c'est fait pour créer un manque de quelque chose qui existe en effet et vers lequel on essaye de nous faire tendre pour qu'on se sente a priori mieux. Et vous savez que les civilisations primitives, il y a plein de reportages et de livres sur ça, par exemple en Amazonie, toutes celles que l'on retrouve vivent en parfaite autarcie, sont très très heureuses. Et ce qui leur fait le plus mal, en dehors même des maladies qu'on leur apporte, c'est de leur donner quelque chose qui du coup devient quelque chose de rare et qu'ils vont se partager ou qu'ils vont se battre pour ça. On crée un manque artificiel et c'est le début de la fin pour ces civilisations. Donc je répète, on est en manque de ce que nous n'avons pas, mais qui existe. Et si on poussait un peu plus loin la réflexion, on est tous, d'une façon ou d'une autre, en manque de l'amour parfait avec un autre être humain. Et tous les romans, tous les livres, tous les films, sont, depuis vraiment très longtemps, sont remplis de ce mirage de la moitié parfaite. Mais toujours, on se dit... Si je rencontre telle personne avec qui je serai parfaitement en symbiose, le monde va être plus beau, je serai heureux, etc. Et pourtant, on sait très bien que les exemples autour de nous ne nous donnent jamais raison. C'est même les vieux couples qui vivent ensemble depuis très longtemps sont parfaitement heureux d'être ensemble, mais cette notion de perfection dans l'union n'existe pas. Et nos propres expériences à chacun nous le montrent d'une façon ou d'une autre. Alors on s'adapte, on garde ce manque de l'union sans tache en nous et on essaye de faire au mieux pour que ça ressemble à ce que nous voulions au début. Nous pensons que nous sommes en manque de cet amour non négociable. Et nous le pensons parce que, pour reprendre la célèbre phrase de Romain Gary que je vous cite souvent dans son livre « La promesse de l'aube », « Avec l'amour d'une mère, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. » Phrase magnifique pour les gens qui, dans l'immense majorité, ont eu la chance d'avoir une mère à leur début. Voilà, on pense qu'on est toujours en recherche de cet amour maternel, c'est ce que nous dit la psychanalyse, ces premiers jours, ces premières semaines, ces premiers mois où tout a été donné, et on est toujours en quête de retrouver cet amour-là qui était parfait, total, de la part de nos parents. En fait, c'est une erreur, parce que les parents font ce qu'ils peuvent, même les meilleures mamans et les meilleurs papas du monde sont toujours à un moment ou l'autre en manque de quelque chose par rapport à ce qu'ils devraient vous donner. Il faudrait remonter plus haut encore. En fait, nous sommes en manque de l'amour de Dieu. C'est ça qui nous manque profondément et qui va faire en sorte donner de l'énergie à toutes nos existences, quelles qu'elles soient. C'est ce manque d'amour de Dieu, conscient ou inconscient. Si nous sommes en manque de cet amour parfait, parce qu'on voit bien que tout le reste autour de nous n'est jamais parfait, même l'amour de nos parents, même l'amour de notre mari, de notre femme, même l'amour de nos enfants, ce n'est jamais parfait. Donc si nous sommes en manque de cet amour supérieur, et bien selon le principe que j'ai énoncé plus tôt, qu'on est en manque de ce que nous n'avons pas mais qui existe, c'est une manière de démontrer que Dieu existe. Quand on est seul dans la nuit et qu'on réfléchit à des choses auxquelles on ne réfléchit pas le reste de la journée, quand on se sent seul au milieu d'une foule, quand on a envie de serrer quelqu'un dans nos bras, quand on a besoin de donner, d'offrir pour provoquer un sourire, pour provoquer un moment de bonheur, qu'on a cette nécessité de consoler quelqu'un parce que ses larmes nous sont insupportables, quand on a soudain la joie de danser, de chanter sur une musique, quand on a le désir d'aller vers les autres, de partager des idées, de rire avec lui, ce sont les fruits de notre manque de Dieu. Parce que tous ces moments-là, de questionnement, d'échange, de partage, de doute, ce sont les traces en creux de l'absence de Dieu, du manque que nous avons de Dieu, je devrais dire. Et le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui s'en rendent compte, ou bien qui veulent bien l'oraliser comme je le fais là. Mais le fond du problème, il est là. C'est qu'aussi loin qu'on remonte, on voit bien que la terre, les gens, les hommes, notre civilisation, nos progrès, rien ne nous comble de ce grand creux qu'on a au fond de notre cœur qui va nous faire ensuite vouloir être riche, célèbre, heureux, plein de tout ce que vous voulez et dont j'ai déjà parlé. Et si elle donc se manque, c'est qu'il y a l'existence. Et comme nous ne manquons que d'une existence dont nous avons connaissance, c'est que nous avons donc déjà rencontré Dieu. Selon le principe que nous ne manquons de ce que nous avons déjà connu, de ce dont nous connaissons déjà l'existence. Donc nous avons déjà rencontré Dieu, tout le monde. Alors si ce n'est pas à titre personnel, on ne va pas parler au nom de l'humanité, l'humanité a déjà rencontré Dieu. Et nous sommes tous participants de cette humanité. Vous savez bien, dans Genèse, il y a un mini verset qu'on lit très rapidement, mais qui est extraordinaire, au moment où, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient là, et au verset Genèse 3, verset 8, il est simplement dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » C'est-à-dire qu'on a un Dieu qui, chaque soir, va venir partager le moment de vie de de Adam et Ève. Ils passaient dans le jardin le soir, ils se promenaient. Il était avec nous, l'humanité, il était en rencontre avec l'homme et la femme. Nous avons rencontré Dieu à ce moment-là, au début de notre histoire. Et cette expérience, elle est transmise depuis à chaque être humain qui arrive sur Terre. Une trace de cette rencontre est en nous. C'est notre ADN intime qui en garde une goutte, même infinitésimale. Je rappelle le texte de Ecclésiaste 3:11, « Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Nous ici, les gens ailleurs, ceux qui font leurs courses chez l'épicier et tout, au fond d'eux, il y a, consciemment, a priori pour nous et inconsciemment pour d'autres, mais ne jugeons personne, ce savoir qui est ancré de notre rencontre avec Dieu lorsqu'il se promenait avec l'humanité à l'aube de notre existence en termes collectifs. Et c'est le creux de cette éternité qui nous crée le manque de Dieu. C'est ça qui est notre béance. Et comment cette béance se caractérise-t-elle dans notre vie quotidienne? Ce creux, c'est la mort. C'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre de nos existences, même ceux qui disent « la mort, c'est pas grave, nous ne sommes que deux passages », etc. Vous lisez tous les plus grands livres des romanciers, de ceux qui ont réfléchi, il y a toujours un moment où on arrive à ce creux-là. J'arrive devant ma fin, j'arrive devant la mort, et là, je suis en manque de quelque chose. C'est-à-dire que la mort, qui nous attend tous, renvoie à ce creux qui n'est pas comblé et qui nous pose question à toute l'humanité, quelle qu'elle soit. Et c'est un creux d'autant plus terrible que nous sentons bien que c'est nous qui l'avons façonné. Je ne vais pas relire le livre de la Genèse, mais vous savez bien qu'ils se sont cachés de Dieu. Ils sont éloignés de Dieu. Nous, nous sommes cachés de Dieu. Nous, nous sommes éloignés de Dieu. Et c'est d'autant plus terrible de se dire... imaginez, je suis très amoureux d'une femme, on avait tout pour être heureux, et c'est moi qui la chasse, c'est moi qui la trompe, c'est moi qui la mets dehors, voire c'est moi qui la tue, au sens propre ou au sens symbolique. Mais mon creux va être d'autant plus épouvantable à vivre que j'en suis le responsable. C'est toujours plus facile de se dire, elle est partie, je suis pour rien, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais quand on est la cause du départ, c'est d'autant plus épouvantable qu'on a la double peine du creux de l'absence et de la responsabilité de cette absence. Et toutes les églises, tous les cultes, tous les sacrifices, depuis le début du temps, depuis le début des temps, depuis le début de l'humanité, sont nés de ce creux, la mort. Il fallait le combler d'une façon ou d'une autre. Et, je reviens à mon histoire de planche de tout à l'heure, et du manque de la pièce qui remplissait ce creux, qu'est-ce qui est parti? C'est l'éternité. En ayant Dieu sur notre planche, qui avait creusé, il nous avait donné l'éternité. La vie avec lui. Lorsque nous l'avons chassé et qu'il est parti, il a pris l'éternité avec lui et nous a laissé avec l'éternité en creux, en vide, qui est la mort. Mais on ne peut pas vivre que de peur, de manque, de creux, parce que c'est totalement insoutenable. Je disais au début que ce sont les gens qui ne reviennent jamais, les gens qu'on a définitivement perdus, qui laissent un vide, parce qu'on sait que c'est terminé. Le creux, il ne va jamais être comblé. La mémoire, la photo, les souvenirs, tout ce que vous voulez, mais ça ne va jamais être comblé. Jamais, jamais, jamais. Eh bien, voici la deuxième preuve de l'existence de Dieu. Vous voyez que c'est pour ça que je suis très prétentieux, que je ne me sentais pas légitime du tout. C'est qu'aujourd'hui, je vous prouve deux fois que Dieu existe. J'espère que ça sera pas mis sur Facebook, sinon je vais me faire tuer. Mais je l'affirme. Deuxième preuve, c'est que ce creux qui avait été mis en place par notre faute, on a demandé à Dieu de se retirer, il est parti en laissant ça, eh bien, il est revenu le combler. Et ça, c'est extraordinaire. Et celui qui est, ce qui est revenu combler, vous savez, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est la seconde chance qui nous est donnée, celle qu'on n'a jamais dans la vraie vie. Un amour qui part ne revient jamais. Une personne chère qui meurt ne revient jamais. Mais Dieu qu'on a chassé, qu'on a arraché, qui est parti, qui nous a laissé de notre faute la mort en creux, parce que c'est ou l'éternité ou la mort, ce sont les deux faces, eh bien, il est revenu combler ce vide-là. Et ça, c'est une preuve d'amour, peut-être, mais c'est une preuve d'existence extraordinaire. Et si on est là, ici, aujourd'hui, c'est qu'au fond de nos cœurs, malgré tout ce qui nous arrive, tous nos doutes, ce fichu creux, on sait que il est comblé. Alors, il est comblé, le problème, c'est qu'on a tellement gratté sur notre plaie que la forme parfaite de son retour, du coup, ne s'incruste plus exactement dans la forme qu'on avait, qui est partie, parce qu'on s'est tellement fait de mal, on a tellement gratté nos cicatrices de tous nos doutes, de toutes nos erreurs, de toutes nos faiblesses, que ça ne colle pas exactement. Et donc, il y aura toujours des petits trous où la souffrance est là. Mais la grosse partie du boulot, de la bonne pièce, a été mise en place. Il y a très longtemps, j'avais mon premier grand-père, enfin c'est très compliqué, le grand-père, qui était pas le vrai en plus, de la mère de mon fils Timothée, que vous ne connaissez pas, j'espère un jour vous pouvez l'amener, il faut y a quelqu'un qui le connaisse. Il s'appelait Papou, il vivait à Lunahouk, c'est comme ça que j'ai connu José Thuriot, donc que je vous connais, donc c'est merveilleux. Et il était ébéniste. C'était un homme qui disait rien, qui était très calme. Et j'étais fasciné quand il m'a amené, j'avais 20 ans, dans son atelier et qui faisait les fameuses tenons et mortaises. Et qu'à chaque fois, mais à chaque fois, dans les meubles qu'il faisait à la main, ça rentrait exactement, au millimètre près. J'étais fasciné par ce savoir-faire. Et dès que j'essayais de le faire moi, c'était une catastrophe, c'était de guingois. Mais il y avait un savoir-faire qui était, je trouve, d'une beauté magnifique sur le génie humain. Et ben c'est ce que Dieu fait. Il nous a donné Jésus pour que les tenons la mortaise de notre vie de nouveau ça soit parfaitement en place. Jésus, c'est l'effacement de notre creux profond, notre creux existentiel, de notre creux qui nous fait tant souffrir tous. Mais quel travail de titan pour boucher ce vide, pour faire repousser le membre fantôme. Vous savez, quand quelqu'un était amputé pendant très longtemps, eh ben, il a l'impression, il n'a plus de bras, mais que son bras est là. Il va, il y a quelque chose, il va, hop, il va croire qu'il va le prendre. Il ne peut pas, mais le membre continue de fonctionner dans son cerveau, même si physiquement, le membre n'est plus là. Eh bien, c'est cette mission unique que Dieu a faite. Il nous fait repousser notre membre fantôme. Il nous redonne la possibilité d'être un être humain à part entière, alors qu'on avait été amputé de notre éternité, de notre cœur. Mais ça demandait tant de soins, tant de préparation, tant de difficultés, tant de temps. Tout l'Ancien Testament, finalement, ce n'est que la mise en place peu à peu de la grande expédition finale. Je ne sais pas, moi, on va revenir à Rencontre du troisième type, le film de Spielberg. Vous savez, pour que rencontrer la grande soucoupe volante, avant, il y a des extraterrestres qui envoient des signaux. Enfin, c'est très compliqué pour enfin que les 12 personnes puissent rencontrer ces extraterrestres. Pour aller sur la Lune, Apollo 11, ça a été un travail incroyable pour qu'enfin ils puissent se poser. Mais c'est rien. Je dis ça seulement pour essayer de vous remettre des choses un peu plus terre à terre, mais les préparatifs pour que la pièce en relief revienne sur nos creux de notre cœur, ça a été un boulot immense. Et c'est ça, toute notre Bible, elle ne raconte que ça. Les 3000 ans ou plus de l'Ancien Testament, c'est façonner un peuple élu, lui trouver un territoire, et l'éduquer, le guider, le corriger. C'est donner des rois, des prophètes, c'est assumer les exils, c'est surtout assumer tous les grattages des hommes sur leur creux qui fait que, malgré tous les plans et les préparatifs que Dieu prépare, eh bien ça va jamais, ça colle jamais, parce que l'homme, nous sommes comme ça, passe son temps au moment où on va pouvoir coller là la pièce, à se gratter à nouveau à travers toutes les erreurs, toutes les fautes qui ont été commises et dont parle l'Ancien Testament. Mais Dieu, chaque fois, il revient, il rajoute, il se rapproche un peu. Vous savez, il y a toujours ça dans les films sur l'espace. Vous avez par exemple, quand le LEM, puisque je parlais d'Alunir en 1969, quand les deux étaient sur la Lune, ils ont dû remonter, puis il y avait Collins qui tournait. Mais là, ce n'était pas fini parce qu'il fallait qu'il s'ajuste exactement pour qu'il puisse remonter dans la fusée et ensuite revenir sur Terre. Et les cosmonautes, Armstrong entre autres, disaient, c'est lui qui commandait, que c'était terrible parce qu'ils sont dans l'espace infini et pour que les deux parties se collent, mais ça se joue au millimètre. Et là, les gars, ils étaient avec... Et c'était un travail d'une précision incroyable, mais en même temps, il fallait que tout fonctionne au millimètre. Tout le travail des ingénieurs précédemment pour que la réunion puisse avoir lieu et que les hommes, les deux, puissent être sauvés, partir avec Collins et revenir sur la Terre. Eh bien, c'est ça, tout l'Ancien Testament. C'est toute cette mise en place longue, longue, longue. C'est pas que Dieu n'aurait pas pu venir d'un coup, mais Dieu ne peut venir remplir notre cœur que si on arrête de se gratter. Si on se gratte, il ne peut pas, ça ne va pas coller parfaitement. Donc il met tout en place, et vous le savez autant que moi tous, le temps que ça a pris, toutes les difficultés, pour enfin arriver à l'ultime étage de la fusée, qui peut être enfin mise en orbite et allunir, atterrir, venir nous voir, c'est Jésus. Mais là encore, l'accrochage, il ne se fait pas facilement. Il faut qu'ils naissent, il faut qu'on trouve une famille. À peine dès le début, il y a Hérode qui fait massacrer tout le monde. Ils sont pourchassés. Et vous connaissez les évangiles, toutes les hostilités qu'il a rencontrées, les moments où il a dû se cacher, où il a dû partir. Enfin, ça a été encore un chemin du combattant. Après les milliers d'années précédentes, la dernière étape pour enfin arriver sur Terre et qu'on puisse faire accomplir la mission totale, c'est... Il faut relire les évangiles sous cet angle-là, sous cet angle de l'hyper-précision qu'a demandé cette mission de sauvetage de l'humanité, qui était d'autant plus difficile à assumer que l'humanité n'était pas d'accord. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que quand les deux dans leur fusée ils voulaient revenir, ils étaient d'accord, donc ils faisaient tout pour que ça concorde. Sauf que nous, on n'est pas d'accord. Et quand vous parlez aux gens qui ne sont pas chrétiens, ils vont dire « Ah oui, c'est un mais ils ne sont pas d'accord, on ne peut pas crocheter, on ne peut pas. » Jésus, oui, très bien, mais il y a aussi Bouddha, j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, il y a Mahomet, il y a plein de gens. Alors donc, oui, mais il n'y en a qu'un mais qui s'accroche. Je suis désolé, il n'y en a qu'un. Parce que c'est le seul qui est revenu. C'est le seul, c'est pour moi qui le dis, c'est le seul. Cette historicité incontestable, dont on avait parlé dans une autre prédication, a été si fragile à préserver, historicité sous forme de « il a été vivant avec nous ». Avec nous. Et c'est parce qu'il a été vivant avec nous que ça peut fonctionner. Donc on sait que Jésus a existé, d'un point de vue historique. Mais le plus loin, le plus, c'est la foi pour qu'il y ait l'accrochage. Et... quand on relit les évangiles, vous verrez, ce sont que des gouttes d'amour que donne Jésus, dans un univers permanent de haine et de défiance. Chaque parcelle de vie à remettre dans le grand creux, en quelque sorte, Jésus l'arrache aux hommes, dans toute sa présence pendant sa vie terrestre, à la force de sa vie. Que de patience, que de dons, que de pédagogie, que d'amour, pour se refaire une place au milieu de nous. Mais relisez la femme samaritaine, Zachée, le jeune homme riche, Pierre, la femme adultère, Marthe et Marie, Sanhédrin, Pilate évidemment, même sur la croix les brigands. Mais à chaque fois, il faut qu'il s'arrache un bout de peau pour qu'un tel descende de son arbre, ou pour qu'un tel accepte de ne pas se friter avec sa sœur, ou pour qu'un tel accepte ce qu'il veut lui donner. On avait entendu la semaine dernière, je crois, avant Yann qui nous parlait du possédé. Il a fallu qu'il se batte, Jésus, pour y arriver aussi, à lui donner cette parcelle d'amour-là. Mais qui d'autre à sa place aurait dit, c'est bon. Pourquoi continuer ma mission devant tant d'obstacles? Je dois descendre sur la lune et je vois qu'en bas, sur la lune, ils sont tous là avec des mitrailleuses lourdes, empêcher mon lemme de descendre. J'y vais quand même. Quelle dose d'amour il doit avoir pour nous pour continuer malgré tout. Alors je redis, on dit souvent pourquoi, oui, alors Jésus, mais il y en a d'autres qui sont descendus du lemme et tout. Lisez les évangiles. Personne ne vous a donné autant d'amour. Personne. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête, mais il me parle. Pourquoi j'aime ma mère plus que les autres mères? Parce que les autres mères, elles ont été impeccables. Je suis sûr que tu es une mère parfaite, je pourrais t'aimer comme ma maman. Ben non. D'abord, j'ai plus l'âge. mais parce que je sais que ce que ma mère m'a donné à moi, ça, je peux le témoigner, je peux le dire, j'ai expérimenté son amour personnel pour moi, que les autres ne m'ont jamais donné. Il n'y a que ma mère qui m'a donné cet amour-là. Eh bien, il n'y a que Jésus qui nous a donné cet amour-là. Les autres, ils ne nous l'ont pas donné. Ils ont pu être des gens, des personnes incroyables, très intéressantes, mais je n'ai pas reçu le moindre cadeau, à part peut-être des beaux livres, ou des belles œuvres, ou des belles pensées, et je les en remercie. Mais l'amour que m'a donné Jésus, personne d'autre me l'a donné. C'est pour ça que je peux dire que c'est mon Père. Mais je sais que ce n'est pas simple à comprendre, je sais que ce n'est pas simple à admettre, et même nous ici, à certains moments, ce n'est pas simple à admettre. Parce que tout le monde doute, et tout le monde nous fait douter. Même ceux qui ont vécu avec lui sur la terre, qui ont partagé, ils ont douté. Imaginez, on en avait déjà parlé, le manque qu'ils ont ressenti au pied de la croix. Cet homme qu'ils avaient suivi, qu'ils avaient rempli de tout son amour, de toute son éternité, enfin c'est extraordinaire. Il leur a été arraché et ils le voient sur la croix en train de mourir. Relisez ce que disent les médecins légistes, les scientifiques sur la crucifixion, sur la flagellation auparavant. Enfin, c'est un cauchemar d'agonie. Mais comment leur manque a dû être énorme, absolument terrifiant à ce moment-là. Parce qu'eux ne l'avaient pas demandé, là, sur le coup. C'était vraiment quelque chose qu'on leur enlevait. Et même la résurrection, donc à ce moment-là qu'ils aient des doutes, c'est normal, mais même la résurrection, ils ne l'ont pas comprise. Pourtant, c'est elle qui comble définitivement le creux de la mort. Au moment de la résurrection, ça y est, la mission est accomplie. Jésus, malgré toutes les embûches qu'il voulait qu'on enlève un peu de 1 mm, exactement la précision des deux pièces, il a toujours dit non, je dois aller au bout, et je dois faire exactement la volonté de mon Père. Non, Pierre, va-t'en, tu es Satan. Même si je gagne une journée peut-être en fuyant, ils ne vont pas m'attraper tout de suite. Et bien, cette journée que tu me demandes de prendre, ou cette fuite que tu me demandes d'avoir pour ne pas mourir, ça va empêcher les deux pièces d'être parfaitement enclenchées l'une dans l'autre. Pourquoi cette résurrection termine notre histoire? Parce que la résurrection se met sur le creux de notre mort et c'est de nouveau le retour de l'éternité qui nous avait été arraché au début. Vous vous souvenez qu'on s'était arraché nous-mêmes? Et bien là, en mourant et en ressuscitant, il nous rebascule dans ce cycle de l'éternité. Il nous comble parfaitement ce creux que nous avions creusé. Alors, il y a un exemple flagrant de ce que je vous dis dans le célèbre épisode et je terminerai sur ça, des disciples d'Emmaüs, donc Luc 24. J'aimerais vous le lire. Ça fait toujours du bien de relire ces moments. Parce que tout y est de ces fameux doutes dont je parlais, de ces fameux moments où on refuse que les deux pièces se collent parfaitement l'une à l'autre, qu'on continue à se gratter. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Je ne vais pas faire une analyse de ce texte-là, mais quand même, c'était des disciples, ils le connaissaient, ils avaient vécu avec lui, mais leurs yeux les empêchaient de reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Quoi leur dit-il ? Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait d'Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et on a annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Ça, c'est nous. Nous savons, on était là, on a connu, on sait que c'est vrai. Et pourtant, on ne voit rien, on ne comprend rien. Et cet épisode, c'est après la résurrection. Les deux pièces, ça y est, elles sont enclenchées. Il n'y a plus de creux pour qui veut qu'il n'y ait plus de creux. Et même ces personnes-là qui étaient au centre de l'aventure, qui auraient dû être les premières à se ressentir à nouveau remplies et qui n'aient plus ce manque-là, même eux sont perdus et continuent de se gratter au risque de refaire partir la pièce. La pièce, elle est collée, elle ne peut pas partir. Mais ils vont peut-être la prendre comme un poids au lieu de... ils ne vont pas savoir en profiter comme il faut. Et d'ailleurs, la réponse de Jésus, elle est très forte. Je crois que c'est les premiers mots donnés par Jésus après sa résurrection. C'est la première fois qu'il parle. Et il dit « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que disent les prophètes, ne fait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Ô homme sans intelligence !» Il a accompli toute sa mission qui vient depuis la nuit des temps. Et la première phrase qu'il va nous dire en étant ressuscité, c'est « Ô homme sans intelligence !» C'est à nous que ça s'adresse. Vous avez tout. Il parle des prophètes, ensuite il va tout décaler. Il va dire, je vous ai montré tout le travail. Moïse et les prophètes, on a tout creusé pour que la plaie soit bonne. On a mis en place pour que je puisse tac coller ce manque. Mais bon sang, ô homme sans intelligence, il ne dit pas ô homme de peu de foi. Il dit ô homme sans intelligence. Alors évidemment que Jésus, notre relation à Dieu est une question de foi. Mais à un moment, c'est d'abord une question d'intelligence. Je vous ai démontré, ce que je viens de dire a bien démontré des choses. Et ce n'est pas votre foi qui croit, je lui dis, c'est votre intelligence. C'est l'intelligence mène à Dieu. Arrêtons, il y a trop de gens qui viennent nous voir, qui disent, j'en mets tellement croire en Dieu comme toi, mais je n'ai pas le déclic, je n'ai pas la foi. Non, c'est que tu es paresseux. Tu es paresseuse. Réfléchis, cherche, regarde, travaille. Et tu vas trouver Dieu. Et à ce moment-là, tu verras que ton cœur y s'ouvrira parce que la pièce qui est déjà là, elle y est ta pièce. Mais tu te grattes tout seul. Tu n'as plus de raison de te gratter. Tu verras à ce moment-là que l'éternité est revenue, que la mort n'existe plus et que la boucle, elle est bouclée. Alors, je passe à la fin. Parce que donc il va aller voir, bon quand même, si je reprends au verset 36, « Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. » La paix soit avec vous. Homme de peu d'intelligence, et maintenant que la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ça continue de renier. Il croyait voir un esprit, etc., etc. Et la fin... Verset 42, ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, il en prit et il mangea devant eux. C'est le retour de l'Éden, la boucle est bouclée. Jésus qui se promenait avec nous dans le Dieu qui se promenait avec nous dans le jardin, Dieu se promène avec nous, il mange avec nous. La mission est accomplie et il a fallu tout ça pour l'accomplir. Et il a fallu toute cette humanité qui s'est passée génération après génération, ses doutes, ses peurs, ses manques, ce grand creux pour arriver à ce que la boucle soit bouclée. Et depuis 2000 ans, la boucle est bouclée. Nous n'avons aucune excuse si nous n'acceptons pas ce retour de l'éternité. Tout le boulot a été fait. C'est qu'une question d'intelligence. C'est qu'une question d'humilité. C'est qu'une question de sincérité. Et donc, n'ayons pas honte de notre foi, parce qu'elle repose sur des bases solides, et on a deux preuves de l'existence de Dieu. On n'a pas perdu notre matinée. Maintenant, évidemment, vous avez compris pourquoi je vous ai fait écouter cette chanson. Et si tu n'existais pas, Joe Dassin a cru écrire une chanson d'amour pour une femme. J'ai juste changé deux mots. Je vais relire toutes les paroles. Et vous allez voir que là, ça va beaucoup nous parler et que sans savoir, Joe Dassin faisait de l'évangélisation. Donc le titre, c'est « Si tu n'existais pas ». Voilà ce que ça va donner. Et si Dieu n'existait pas ? Et si Dieu n'existait pas ? Dis-moi pourquoi j'existerais ? Pour traîner dans un monde sans lui, sans espoir et sans regret ? Et si Dieu n'existait pas ? J'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si Dieu n'existait pas ? Dis-moi pour qui j'existerais ? Pour des passantes endormies dans mes bras qui ne m'aimeront jamais ? Et si Dieu n'existait pas ? Je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de lui. Et si Dieu n'existait pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si Dieu n'existait pas, qui donc l'aurait trouvé le secret de la vie, le pourquoi simplement pour me créer et pour me regarder. J'ai changé quatre mots. Quatre mots. Je vous dis, Dieu a mis dans le cœur de l'homme, même des chansonniers, la pensée de l'éternité. Soyons-en heureux, on est rempli, on n'a plus de manque. Je vous remercie.